À suivre, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien. C'est vous, Jean-Luc, qui prenez la main pour le quiz Born to be Alive.
Alors, on va commencer avec une question pour vous, justement. J'ai envie de vous faire partie qu'un handicap, Stéphane. C'est une question sur l'histoire du sport.
Ah. Alfredo, c'est pas ma spécialité.
Alfredo Binda, ça vous dit quelque chose ?
Ah, pas rien du tout.
Pas du tout.
Moi non.
C'est vrai. Alors, Alfredo Binda était un cycliste italien. Il était tellement fort qu'on l'a payé pour qu'il ne participe pas au Tour d'Italie. Ainsi, la course gardait tout son intérêt. Sinon, on savait qu'il allait gagner. D'après vous, est-ce que c'est vrai ou faux ? On a payé ce cycliste pour qu'il ne participe pas.
C'est moche ça, hein, Stéphane.
Comment voulez-vous que je sache ça ?
Mais parce que vous êtes un puits de science.
Essayons de nous mettre dans la situation de ce malheureux Alfredo, parce que c'est quand même un grand coureur cycliste.
Très grand.
Donc
très
sait
grand.
Ce que c'est que l'effort physique du vélo.
Il accepterait pas une chose pareille.
Vous me direz, quand l'autre jour on a parlé de Lance Armstrong, il en a bien accepté de...
C'est dans quelles années quoi ?
À quelle époque ?
Première partie du 20e.
Non, il a refusé, c'est un homme sérieux, oui.
Non,
peut
je pense
pas
qu'on
accepter.
Est trop naïf, Stéphane. Il a dû accepter, en fait.
Ok, il a accepté. Elle dit qu'elle a accepté, il a accepté.
Vous avez gagné.
Ah, oh, bah
vous
voilà,
avez bien
Stéphane,
fait.
Vous voyez,
il faut qu'on aille
naïveté.
Contre notre naturel,
oui,
c'est
nature,
ça.
Oui, nature, c'est la... Nous, on est intègres, voilà.
Alors, c'était en 1930, le plus grand journal quotidien italien, la Gazzetta dello Sport, qui était également l'organisateur du Giro, lui a donné 22 500 lire de l'époque, la somme que touche normalement le vainqueur, pour que Alfredo Binda ne prenne pas le départ de la course. Ainsi, c'est Luigi Marchisio qui a gagné.
Eh ben c'est affreux cette histoire, oui. Vraiment affreux.
Et
affreux.
Que vous fassiez le relais de cette histoire.
C'est
me
pas
choque.
Bien, non, vraiment. C'est
non,
pas
mais,
bien.
C'est... mais peut-être qu'un jour, on vous paiera pour ne pas participer pour que l'autre gagne. Oui, exactement. Allez, une question pour Clémentine. Clémentine, si vous allez admirer aux États-Unis le Mont Rushmore, avec ses 4 sculptures de 18 mètres représentant George Washington, Thomas Jefferson, Roosevelt et Lincoln, vous pourrez constater du doigt qu'elles sont en granit. Concrètement, ça veut dire que tous les 10 000 ans, les œuvres s'érodent de combien ? De 2 cm ? De 10 cm ? Ou de 30 cm ?
Tous les
10
ans. Non, les 10 000 ans.
10 000 ans.
Ah oui. Tous les 10 000 ans. 10. Coupons la poire en deux.
Vous êtes sûr ?
Non, je ne suis pas sûr du tout. 30 cm en 10 000 ans, ça me paraît...
On remarquera quand même que, sur vos questions, Stéphane essaye toujours de vous aider.
Moi, j'aurais dit 2, mais bon.
Ah, il aurait dit 2. Vous suivez Stéphane ou pas ?
Ce qui serait impressionnant comme réponse, c'est que ça s'érode le moins possible en 10 000 ans. Donc ça serait raisonnable de répondre 2, en effet, comme l'a fait Stéphane. 30 cm, ça me paraît beaucoup, parce qu'on veut là saluer justement la... Bon allez Stéphane, je vais vous suivre.
Vous
adieu Vat, je vais répondre 2.
Quelle pression.
On écoute la réponse.
Vous avez gagné.
Ah. Merci
c'est
Stéphane.
C'est un quiz en collaboration aujourd'hui. Ouais. 2 cm tous les 10 000 ans, normalement, sauf catastrophe majeure, les 4 visages devraient être encore discernables dans 7 millions d'années.
Oh.
Ce qui est une bonne nouvelle.
Oui, très bonne nouvelle. On ne saura plus qui représente,
oui, mais c'est ça.
Et on verra les visages.
Mais c'est ça.
On le sait déjà plus. On le sait déjà plus maintenant.
Allez dans la rue, Jean-Luc, oui, demandez
on fera un micro de trottoir, oui.
Alors, une question pour Stéphane. Histoire de la Corée du Nord à présent. Concentrez-vous, Stéphane.
Kim Jong-un.
Non, Kim Jong-il.
Kim Jong-il, le papa.
Était l'ancien dirigeant suprême de la République dominicaine. Non, j'aimerais tellement. Non, c'était le dirigeant suprême de la République populaire démocratique de Corée. Vous le savez, il a été remplacé par son fils
Kim Jong-un.
En 2010, il s'est passé quelque chose. L'entraîneur de l'équipe nationale de foot s'appelait également Kim Jong-un. Cette année-là, pour lui, c'est le drame. Car son équipe prend 7-0 contre le Portugal et ils sont éliminés de la Coupe du Monde. Pour la peine, l'entraîneur a dû payer une amende équivalente à une année de son salaire. Pour l'affront, vrai ou faux ?
Bah c'est pas mal comme idée quand même, hein, qu'il y ait une forme de sanction dans l'échec.
Non, parce que là, tout à l'heure, j'ai une question où on payait, là, on paye pas.
Mais c'est pas possible. C'est
moi,
quoi,
je pense qu'il a été, mis en prison.
Il a dû être
gravement sanctionné.
Je dis c'est faux.
On peut pas juste lui demander, vas-y, donne-nous ton salaire annuel.
Parce que Kim Jong-un, si vous voulez, il fait sauter son oncle avec une bombe.
Oui, donc l'argent.
Il va pas donner
une amende.
Il s'en fout de l'amende.
Oui,
il
oui
l'a
vous
tué,
avez raison, Stéphane. Il l'a fait exécuter, il a disparu, il est en maison de redressement.
Vous avez une mauvaise image de Kim Jong-un.
Oui, peut-être. Je prie l'ambassade de Corée peut-être. Du Nord de m'excuser.
Oui, faites, parce qu'on ne sait jamais.
On ne sait jamais, des fois qu'on est en vacances.
Mais il faut que la justice passe. Et là, vraiment, face à une telle déception.
Très passe, même.
Bon, on écoute la réponse.
Vous avez encore gagné.
Eh oui,
vous le connaissez bien, Kim Jong-un. Et oui, malheureusement, l'entraîneur a été condamné aux travaux forcés.
Bah oui,
et
ben
voilà. Condamné à porter des charges dans une mine 12 heures par jour. Et c'était doublement injuste parce que la composition de l'équipe avait été choisie par le fils du dictateur nord-coréen, le fameux Kim Jong-un. C'était le fils de Kim Jong-un qui avait décidé de la composition de l'équipe.
Et oui, oui.
Mais lui, il n'a pas eu de problème.
Bah oui, il ne peut pas avoir tort.
Bah évidemment que non. Alors, une question peut-être pour égaliser. C'est à vous, Clémentine. C'est le 7 mai 1946 que naît Sony. Le nom est vite trouvé. La société est créée par deux ingénieurs, M. So et M. Ni. Vrai ou faux ?
Il me semble que c'est un acronyme, mais ça ne doit pas être M. So et M. Ni. Bah, aidez-moi si vous voulez qu'on fasse la cinquième question.
Moi,
un petit clin d'œil.
Il s'en fout, il paye pareil. Hein.
Exactement. Et même moi, si je finis plus tôt.
Comme ça, il termine plus tôt.
Et je vous rappelle qu'il y a punchline derrière. Hein. Il faut comprendre.
Bon, mais je ne sais pas, là. Je ne sais pas. Parce que.
Alors, une réponse.
Non, ça ne serait pas marrant.
Ça ne serait pas marrant.
C'est pas Monsieur So, Monsieur Nier. Non.
Non. On vérifie.
Vous avez encore gagné.
Bravo. Sony a bien été créé par deux ingénieurs, mais pas par M. So et M. Ni. C'était messieurs Ibuka et Morita. La société s'appelle au début Tokyo Tsuchin Kogyo, puis on raccourcit en Sony parce que Sonus, en latin, ça veut dire son, tout simplement.
Ah, ça c'est beau, voilà.
Les
Japonais qui rendent hommage à la culture romaine.
Exactement, la culture latine.
Ah, c'est bien.
C'est beau. Alors, la question pour départager.
Oui, il est impatient. Dans les années 60, il y avait un sport populaire sur la côte ouest des États-Unis. Un sport qui fut même télévisé et même regardé par plus de 5000 spectateurs. Il y a même eu un championnat du monde tous les ans pendant plusieurs années, et ce, dans l'État de Washington. Mais de quel sport parle-t-on ? Il s'agissait de la lutte de poulpe, du lancer de femme, de la danse acrobatique masculine.
Lancer de femme.
Ça jaillit comme ça.
La lutte de poulpe.
La lutte de poulpe. Et je suis obligé de dire que le gagnant d'aujourd'hui est une gagnante. C'est Clémentine qui l'emporte.
La lutte de poulpe.
Et donc, en 63, 111 plongeurs participent au championnat du monde de lutte contre le poulpe. Au total, 25 poulpes seront pêchées. Après la pêche, on se montre les poulpes, on se les mesure, et celui qui a le plus gros poulpe a gagné. La lutte de poulpes se faisait dans 100 bouteilles de plongée, il faut le savoir.
Ah oui.
Et les poulpes étaient ensuite mangées ou rejetées à la mer.
Bon, en général, c'est la réponse la plus con qui gagne. Mais là, voilà.
Bon, on a quand même été bon là.
On
sur
a été
ce coup-là.
Oui,
parce on veut nous induire en erreur.
Je pense pas que je le dirai un jour, mais je suis fier de
moi. Je l'ai en travers, votre cycliste qui accepte une prime plutôt que de concourir.
Mais c'est pas moi qui ai pris l'argent.
Merci beaucoup, Clémentine.